C'était l'invité de la rédaction, Sylvain Waserman, le député du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale. À retrouver maintenant Arié Flak, le président de l'appel national de la Tzedaka, qui s'est entretenu pour un long entretien avec Patrick Cohen, le président de Radio Judaïka. C'est à suivre, c'est maintenant.
Arié Flak, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'intervenir sur les ondes de Radio Judaïka Strasbourg. Alors, vous êtes vice-président du Fonds social en charge de la culture. Vous me rattrapez hein, si je dis une sottise. Vous êtes aussi vice-président de l'OSE. Vous avez présidé en 2018 la saison France-Israël. Vous êtes banquier d'affaires, vous avez 49 ans, marié et père de 3 enfants. Et vous avez accepté cette année, à la demande d'Ariel Goldman, dont on rappelle qu'il est président du Fonds social et de la UJF, vous avez accepté de présider la campagne 2020 de l'appel national de la Tzedaka, donc en pleine période de Covid-19. Ma première question est la suivante. Qu'êtes-vous venu faire dans cette galère, Arié Flak?
Merci Patrick, votre portrait est très juste. Vous savez, c'est l'appel de la responsabilité. Lorsque j'ai accepté de présider la saison France-Israël, je savais que je m'aventurais dans des relations compliquées, et je crois que cette saison fut un succès. Aujourd'hui, l'appel national pour la Tzedaka, c'est un objet unique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette responsabilité. On a la chance en France d'avoir un objet qui existe depuis 28 ans, qui est le rassemblement de près de 90 associations du secteur social qui se regroupent pendant un mois pour collecter au profit des associations du secteur social.
Ça n'est donc pas, permettez-moi, une opération strictement fonds social. C'est une opération qui non seulement vise à aider, hein, j'essaie de suivre par rapport à ce que vous présentez, des associations, mais qui a vision à aussi impliquer ces associations pendant ce mois de la Tzedaka.
Tout à fait, si vous voulez, la Tzedaka, c'est un concept assez particulier, puisque vous avez un opérateur, qui est le fonds social, donc le fonds social juif unifié, je n'ai pas besoin de le rappeler pour vos auditeurs. C'est cette grande fédération qui rassemble les associations de la communauté juive dans un certain nombre de domaines, la culture, l'éducation, le social. Et l'appel national pour la Tzedaka, il existe depuis 28 ans, mais finalement je pense qu'il est toujours un peu méconnu. C'est un moment où l'ensemble des associations du secteur social se regroupent autour du fonds social pour collecter sur un certain nombre de programmes. Donc, lorsque moi, je collecte et je prends la direction de cette campagne, ce n'est pas une campagne de collecte au profit du Fonds social, c'est une campagne de collecte qui s'appuie sur l'expertise et la compétence des équipes du département social, qui s'appuie sur l'expertise et la compétence des équipes du Fonds social, avec un objectif qui va être de collecter pour des projets présentés par les associations du secteur social, de la communauté, de la BPIEH qui s'occupe des personnes âgées handicapées et les Chaïm Handicap qui s'occupent des enfants handicapés, jusqu'à l'OPEJ, l'OSE, en passant par toute une série d'acteurs qui agissent aussi bien sur le front de l'enfance, de l'aide alimentaire, de l'aide d'urgence, du logement, du relogement. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre ça en compte. La campagne de l'appel national pour la Tzedaka, telle que je la porte avec cette présidence, c'est vraiment une campagne unitaire et de redistribution. Alors,
vous disiez, Arié Flak, oui. Vous parliez de logement, vous parliez d'aide sociale, vous parliez d'enfance. C'est quoi les priorités cette année avec le COVID, la COVID-19? Est-ce que justement vous avez au fonds social renforcé? Alors, on parlera ensuite du financement, hein, c'est intéressant ce qui se passe cette année et c'est un pari absolument incroyable qu'a fait le fonds social. Mais est-ce que vous avez renforcé un certain nombre de domaines? Est-ce que par exemple cette année on est plus sur le social ou est-ce que finalement cette crise est transverse et vous avez besoin de renforcer l'ensemble des pôles d'aide que vous avez de la même façon?
Alors, vous posez une question qui est cruciale. En fait, le moment dans lequel on se trouve, qui est une crise sanitaire devenue une crise sociale et économique, on le voit pour l'ensemble de la collectivité nationale, elle a un impact très lourd, immédiat, mais qui va en s'amplifiant. On voit les statistiques d'évolution de la pauvreté en France, la communauté juive française, elle est le reflet de la communauté nationale.
Elle ne déroge pas à cette crise.
Elle ne déroge pas à cette crise. Et on le voit dans la montée des demandes. Pour l'instant, on a plutôt une montée des demandes d'aide sociale d'urgence, hein, et des situations de très grand isolement, en particulier chez les personnes âgées. Mais ce qu'on constate dans les remontées d'informations des associations du secteur social, c'est que la communauté juive est touchée au même titre que la communauté nationale. Alors, qu'est-ce qui est fondamental en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est très important pour vos auditeurs de bien comprendre le phénomène qui est à l'œuvre. On a la chance en France d'avoir construit, ce n'est pas de la chance d'ailleurs, c'était du travail de génération de militants, d'avoir construit toute une infrastructure sociale. C'est une infrastructure sociale à caractère propre, c'est-à-dire que nous avons dans tous les domaines, depuis l'aide alimentaire d'urgence jusqu'à l'accueil de personnes âgées en fin de vie, en passant par l'ensemble des chaînons de la vie, toute une infrastructure sociale. C'est quoi une infrastructure sociale? C'est des associations qui opèrent des programmes, qui opèrent des maisons d'enfants, des EHPAD, des centres d'accueil de jour, des centres d'aide par le travail, des associations qui rompent la solitude des personnes âgées, des programmes de logement, de relogement. Toute cette infrastructure, elle repose sur à la fois la générosité privée des donateurs et elle repose sur du soutien public, c'est-à-dire des contrats ou des accords avec les conseils généraux, les mairies ou les ministères concernés. Aujourd'hui,
C'est
cette
du co c'est
infrastructure.
du cofinancement en
Bien
quelque
sûr,
sorte, hein. On a un
exactement.
financement public et on a un financement par le fonds social ou un financement direct aux associations.
Exactement. Donc en fait, on a en fait construit, et cette infrastructure, aujourd'hui, elle est mise sous stress. Donc en fait, c'est un peu le moment, c'est un peu l'heure de vérité. Parce que les besoins augmentent. Les coûts de fonctionnement de l'ensemble de ces associations, on le voit bien avec le confinement, les mesures restrictives nécessaires liées à la situation sanitaire, font que chacune de ces associations voit sa base de coûts augmenter, voit le nombre de bénéficiaires potentiellement augmenter, et on a une contraction des financements privés avec.
Est-ce à dire, Arié Flacq, pardonnez-moi, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce à dire aujourd'hui que vous aidez de la même façon les associations que vous aidiez dans le passé, ou est-ce à dire que vous avez vous-même dû, le Fonds social, renforcer le financement pour pallier ces manques?
Alors, si on regarde la situation sur 2020, on a augmenté nos aides d'urgence. En particulier sur le maillage autour de passerelles de soutien et de lien aux personnes âgées isolées, hein, c'est qui est vraiment un sujet crucial. On a dû renforcer également le sujet de l'hébergement d'urgence parce qu'on a des situations dramatiques Et je, enfin, moi, je ne suis pas un président de la Tzedaka qui veut être dans le misérabilisme. Je pense qu'il faut bien comprendre les situations, mais à la fois, on est confronté à des situations de détresse humaine inouïe. Je vais vous donner un exemple. Je parlais la semaine dernière avec la directrice du département social, Madame Zena, pour faire un peu un point sur les situations. Et elle a partagé avec moi une situation. Alors c'est un cas, c'est un cas, mais c'est un cas humain qui va bien faire prendre conscience du type de situation qu'on vit. Elle m'a parlé d'une dame, on va l'appeler Madame A. Madame A était chanteuse de cabaret. Elle avait une vie très chouette. Et puis le père de Madame A est tombé malade il y a 7 ans. Et elle s'est occupée de lui. Elle s'est occupée de lui pendant toute sa fin de vie. Et au cours de cette période, elle a vendu son appartement. Elle a consacré ses ressources à la fin de vie de son père. Et puis son père est décédé il y a un peu plus d'un an. Elle s'est retrouvée sans ressources, à la rue, dans une situation de détresse psychologique, morale, très forte. Et au mois d'avril, le fonds social a été appelé par une assistante sociale d'un des hôpitaux de Paris. Madame A avait été hospitalisée dans un état de santé très précaire. Et ça faisait un an qu'elle habitait dans une cave. Dans une cave.
D'accord.
Donc, okay. Madame A a bénéficié d'un programme qui a été lancé il y a 2 ans, qui est un programme expérimental de logement temporaire. Vous voyez, donc typiquement, c'est le genre de sujet qu'on a mis en place déjà il y a 2 ans, parce que qui consiste à avoir, on a, alors pour l'instant c'est très peu, hein, on en a 3, c'est des logements qui permettent qu'on meuble, dans lequel on loge la personne. Avec un accompagnement psychologique, un accompagnement médico-social, pendant une période de 8 à 12 mois, pour qu'elle se reconstruise.
Et pour reprendre sa vie en main, en fait, hein, pour retomber sur ses...
C'est l'appartement des secondes chances. On a également en place un programme de relogement pour des familles qui sont dans des situations qui ne sont plus en mesure de payer leur loyer, qui ont des arriérés... c'est le fonds d'urgence en fait sert beaucoup à ça. Hein. C'est le nombre d'appels en fait. On reçoit énormément d'appels sur les situations où en fait des familles se sont laissées happer par une situation de surendettement où en fait il y a des arriérés de paiement d'électricité, de gaz, de loyer et puis on court après. Donc c'est ce genre de situation si vous voulez qu'on voit augmenter. Mais Patrick, pour que vous ayez en fait en tête un peu les chiffres dont on parle, hein, c'est, oui. Je pense que c'est important parce que souvent, on parle de ces sujets, mais il faut bien voir finalement les quantums. La Tzedaka, l'année dernière, a collecté à peu près 3 millions d'euros, un petit peu plus. Voilà,
sur cette opération, hein, l'appel ouais. national de la Tzedaka, 3 millions d'euros. L'appel sur un budget de combien du Fonds social au niveau national?
Le budget du Fonds social, il est aux alentours d'une quinzaine de millions d'euros, si vous voulez. Hein, d'accord. C'est entre 12 et 15 millions, selon la manière dont on le regarde. Mais l'appel pour la Tzedaka, en fait, c'est un budget qui est uniquement consacré au social en France. D'accord. Donc c'est très spécifique.
Ces 3 millions d'euros ne vont pas à la culture, hein, qu'on soit clair, non. Ils vont au social. Les enfants, la famille, c'est considéré comme du social. Les bourses, je crois savoir que le Fonds social finance énormément de bourses scolaires pour les enfants. Ça fait partie du social, ça. Hein, on est bien dans le même cadre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on considère comme étant du social à la fois les bourses scolaires, mais également il y a un programme très important de bourses cantines. Qui d'ailleurs n'est pas financé uniquement par le Fonds social. Je pense qu'il faut rendre hommage aux partenaires, puisque on a un programme qui s'appelle l'Atalmide, qui est un programme de bourse cantine, qui permet en fait à chaque enfant qui fréquente une école juive de pouvoir manger le midi. Ça paraît simple, hein, manger le midi. Mais, et on a, aujourd'hui, l'année dernière, on avait 1551 enfants de la troisième à la seconde, du CP à la troisième, qui bénéficiaient de ces bourses cantines.
On rappelle quand même, hein, vous donniez un exemple précis tout à l'heure, hein, de Madame A. On rappelle que j'ai eu la chance et le privilège d'interviewer Richard Audier, hein, il y a 3 semaines. On a évoqué ce point-là aussi. Il faut quand même que nos auditeurs sachent qu'il y a des enfants en France, dans les écoles juives, qui ne mangeaient pas à midi parce que on quittait l'école pour se retrouver à l'extérieur, le temps du repas et puis peut-être aussi le temps un peu de la honte. Et on revenait à 14h le ventre vide parce qu'on n'avait rien à manger. C'est une vraie réalité. Alors ça ne touche pas que la communauté juive. Ça touche la communauté nationale, c'est un problème qui est très tenu au national, mais en tous les cas, on est loin d'être épargné par ce phénomène.
Et oui, Patrick, en fait, on est en fait dans une réalité sociale en France qui est très difficile, qui nous oblige et qui touche également la communauté juive. Donc on avait mis en place ces bourses cantines. Donc pour donner des chiffres, hein, 1550 enfants, c'est énorme. Ça coûte, en fait, le financement de ces bourses cantines, c'est un budget l'année dernière de 620 000 euros. Bon. Sur ces 620 000 euros, il y en a un tiers qui est financé par la Tzedaka, par la campagne de la Tzedaka, et puis les deux tiers qui sont financés par la fondation Gordin, qui est une fondation qui est opérée également par le Fonds social, mais qui regroupe autour de la table la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la FJ, la Fondation du judaïsme français, la Fondation Rothschild. Donc en fait, c'est un travail en commun.
Pour des sujets comme celui-là, on se retrousse les manches, quelle que soit l'association juive en l'occurrence. On pourrait se demander ce que fait la Fondation de la Shoah, mais malgré tout, là où l'argent est disponible, les gens essayent d'investir dans ce domaine social. Arié Flak, le temps passe vite. J'imagine que dans la période de difficultés économiques que l'on vit, les dons ont dû baisser. En tous les cas, votre effort financier aujourd'hui est très important. Il est renforcé, vous l'avez dit. Vous avez besoin, paradoxalement, dans une période difficile, de plus d'argent pour aider l'association. Est-ce que l'État, c'est une question que je vous pose parce que je pense que beaucoup de nos coreligionnaires se la posent. Certains se disent, de toute façon, dans des périodes comme celle-là, l'État met au pot, il aide les grandes associations françaises, donc on ne doit pas déroger à cette règle. Donc je pense que le Fonds social s'en sortira parce que, in fine, à la fin, ce qui manquera sera mis au bout. Est-ce que c'est une réalité, ça?
Non. Le Fonds social ne touche quasiment pas de financement public. Il faut le savoir. Le financement public sur l'action sociale, en fait, il vient essentiellement des départements. Et on a un système de financement public du social qui est très complexe. Aujourd'hui, sur les 3 millions d'euros qu'on espère collecter pour la Tzedaka, on va, et qui seront reversés intégralement soit au programme du fonds social, opéré par le Fonds social, soit au programme des associations partenaires. Il faut voir que ces 3 millions d'euros qui sortent de la poche des donateurs, ils permettent de déclencher des financements publics. C'est ça qui permet de déclencher des financements. Déjà, ça permet de déclencher des financements de grandes fondations. On a un système de matching fund dans la communauté où, en fait, lorsqu'une association sociale vient présenter un projet, par exemple, je viens présenter un projet de centre d'accueil de jour pour personnes âgées. Dans ce cas-là, je vais aller voir une fondation, une grande fondation, et je vais présenter mon projet. Mais la fondation, elle va dire, moi, je vous finance 20-30% de votre projet. Comment est-ce que l'association va pouvoir financer sa part de ce projet? C'est grâce au financement de la Tzedaka ou aux dons qu'elle reçoit en direct. Donc, d'accord, les 3 millions de la Tzedaka, ils déclenchent au moins 3 à 4 millions de financement d'associations, de fondations. Mais c'est pas fini.
Pour reprendre l'exemple de Madame A, Arié Flak, ouais. Madame A, vous lui proposer un hébergement temporaire, donc il faut pour ça des structures pour pouvoir gérer ça. Ensuite, j'imagine, j'extrapole, mais j'imagine que vous lui proposerez un accompagnement avec une assistante sociale. Il faut qu'on comprenne que c'est un maillon. Le financement public peut intervenir à partir du moment où la personne elle-même est rentrée dans un cadre qui lui permet ensuite de pouvoir demander ses financements et qu'il y a un suivi de ses financements. Donc cette Madame A, elle va être suivie par une assistante sociale qui va lui permettre de l'aider à remplir ses dossiers. Et peut-être qu'au bout de quelques mois, sûrement qu'au bout de quelques quelques mois, elle va commencer à prétendre aux aides auxquelles elle a besoin. C'est ça qui est important et c'est ça que je pense que nos auditeurs vous doivent comprendre, c'est que le travail des associations aidées par le Fonds social remettent les gens, et pas seulement par l'argent, sur leurs pieds ou leur permettent de reprendre leur route parce qu'elles les aident à un moment. C'est une béquille qui va les aider ensuite à se réinsérer et à revenir en fait dans la société nationale avec les aides, etc. Hein, c'est bien ça. Hein.
C'est ça, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de tendre une main secourable, mais une main qui élève. Comme vous le savez, on utilise ce mot de tzedaka pour l'appel national pour la tzedaka. Tzedaka, c'est un mot très particulier, parce que la tzedaka, ce n'est pas la charité. La tzedaka, c'est la justice. Hein. C'est le
sentiment. Oui, c'est une obligation au sens du judaïsme.
C'est une obligation. Hein. Donc, on est dans une situation où le sens, la valeur qu'on porte et que chacun de nos donateurs porte, chacun de nos militants porte dans cette campagne, c'est à la fois un sentiment qui est celui de la solidarité, mais qui est aussi celui de la nécessité de la justice sociale. Lorsqu'on fait ces dons, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est l'acte en fait, du donateur ? Le donateur, en fait, il s'inscrit dans une chaîne de solidarité. Et il s'inscrit dans une chaîne où il considère qu'il veut faire partie d'un collectif qui va apporter soutien et secours. Si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va assister au délitement de toute cette infrastructure sociale à caractère propre qui a été mise en place. Et donc Madame A, en fait, est-ce qu'elle peut avoir une assistante sociale qui va comprendre aussi sa problématique identitaire ? Est-ce qu'elle va pouvoir aller, le jour où elle aura besoin d'aller dans un centre d'accueil de jour, aller dans un centre d'accueil de jour qui va faire de la place à son identité, à ses besoins, à son histoire ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir des associations du secteur social, comme dans l'enfance, qui portent les valeurs du judaïsme français en s'occupant à la fois des enfants juifs, mais également de tous les enfants de la collectivité nationale qui en ont besoin, comme c'est le cas à Lozé ou à Lopège. Donc, la question que porte cette campagne pour la Tzedaka, c'est de savoir quelle est la volonté du judaïsme français d'avoir à la fois des structures, des programmes qui permettent d'assurer la solidarité au sein de notre communauté, mais également de savoir dans quelle mesure nous sommes en capacité de porter notre flamme et notre solidarité auprès de l'ensemble de la collectivité nationale. C'est ça la question de la Tzedaka.
Alors, au début de l'interview, je vous avais, ma première question, c'était de vous demander ce que vous êtes venu faire dans cette galère. En même temps, quand je regarde l'opération cette année, en règle générale, l'appel national de la Tzedaka, c'est un par un de marque. Et cette année, j'ai pu constater qu'ils étaient 26 et sont des parrains vraiment de grande renommée. Hein. Je vais citer de manière non exhaustive. Il y en a beaucoup. Il y a Patrick Bruel, Franck Dubosc, Michel Drucker, Kev Adam, Sari Abidjan, Cyril Hanouna, que sais-je encore. Quelle est, alors déjà on sent que la mobilisation elle n'est pas que chez les donateurs, elle est aussi chez toutes ces figures hein, du judaïsme, ou d'ailleurs des figures qui ne sont pas du judaïsme, parce qu'il y a aussi dans ces 26 parents...
On a Franck Dubosc.
Voilà. À moins que Franck Dubosc soit passé sur la table d'opération, je pense qu'on ne peut pas le considérer comme un membre actif de la communauté juive, mais en tous les cas, on voit que le monde du spectacle, le monde des gens peut-être qui aujourd'hui sont touchés d'une manière moins forte que les gens qu'aide le Fonds social, se sont fortement mobilisés. C'est quoi... cette année, parce que j'imagine que pour vous, c'est aussi quelque chose de compliqué à gérer. Quel est le rôle que vous avez donné à ces parrains cette année ? Comment est-ce qu'ils t'intègrent en fait dans le mouvement ?
Alors, vous savez, la campagne pour la Tzedaka, historiquement, c'est une campagne la plus présentielle possible, puisqu'elle est construite autour d'événements. On a nos parrains qui nous font un super spectacle au Palais des Congrès, on a le dîner des parrains, on a des dîners dans toutes les villes de province, à Strasbourg d'ailleurs, hein, à Strasbourg, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. Bon, cette année, avec les restrictions sanitaires, on est passé dans une campagne 100% digitale. Et donc, la manière dont moi je suis très ravi de franchement, le soutien des parrains est exceptionnel. Et on a décidé que on a 26 jours en dehors des Shabbats pour le mois de la Tzedaka, et chaque jour appartient à un parrain. Et donc, chaque jour, un de nos parrains monte des événements, surtout en digital, pour nous accompagner. Ils viennent avec moi, lorsqu'on le peut, en respectant les règles sanitaires, visiter les associations et donner un peu de confort. On a des séquences absolument amusantes avec des donateurs qu'on appelle avec les parrains. Je vous donne un exemple. On a fait un Zoom, une réunion Zoom il y a une petite semaine que j'ai organisée avec une vingtaine de chefs d'entreprise engagés autour de la Tzedaka, dont d'ailleurs près de la moitié étaient des primo-donateurs à la Tzedaka. Et on a eu une heure de discussion ouverte où, avec Cyril Hanouna, qui était dans sa loge où il venait de terminer l'enregistrement de son émission, où il a expliqué pourquoi lui, Cyril Hanouna, était non seulement parrain, mais grand donateur de la Tzedaka, et ce qui faisait que dans son histoire familiale, il avait décidé de s'engager dans cet effort de solidarité. On avait Michel Bouchna, qui était dans son lit, qui nous a à la fois fait quelques blagues, mais aussi expliqué pourquoi il est engagé. J'avais le grand rabbin de France
dans sa douche, en
robe de chambre devant son ordinateur, le grand rabbin Chaim Korsia, et nos 20 chefs d'entreprise, chacun chez eux. Et je peux vous dire qu'en fait, on a, avec cette campagne 100% digitale, la capacité de créer un niveau d'intimité et un niveau de profondeur dans les discussions qui est très intéressant. Parce qu'on bascule de l'événementiel festif. Il faut garder cette idée que le don est une fête, que la solidarité est une fête. Mais on a l'opportunité aussi, dans les conditions particulières dans lesquelles se fait cette campagne, d'être peut-être aussi un peu plus réflexif, un peu plus dans l'approfondissement du geste que l'on fait lorsqu'on y participe. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on a la chance d'avoir Daniel Cohen, qui est un ami, l'économiste qui a écrit Richesse du monde, pauvreté des nations, qui va nous faire un webinar pour la Tzedaka avec Jacques Attali, qu'il a proposé d'intituler La bourse sous la vie, l'économie au temps du Covid, qui va être à la fois une conférence qui va porter sur la situation actuelle et également des appels aux dons, qui va attirer un public peut-être différent autour de la Tzedaka. On cherche en fait à se réinventer, on y est bien obligé.
Changer le format.
Changer le format, parce que c'est une situation d'urgence. De toute façon, si on ne lève pas les fonds nécessaire, vous savez, on ne les trouvera nulle part ailleurs. C'est ce que vous avez bien expliqué, c'est que, en fait, pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier du financement public sur les assistantes sociales, les travailleurs sociaux, les éducateurs, eh bien, en fait, il faut qu'il y ait une part de financement associatif et c'est notre responsabilité, en fait, d'organiser cela. Donc, oui, c'est parfois plus facile, je le dis à certains donateurs, c'est parfois plus facile de donner à une cause, de dire voilà, l'association...
Ça, c'est quelque chose qu'on entend, hein. Le Fonds social fait de l'essaimage, moi je préfère donner à l'association parce que je la connais, les proches de chez moi, je connais ses membres, je sais ce qu'ils font, etc. C'est quelque chose, en effet, oui, qu'on entend. L'essaimage, au sens, on peut le prendre dans plusieurs sens. On peut considérer que vous permettez justement que certaines associations ne soient pas oubliées. Qu'est-ce que vous avez à répondre à celui qui vous dit moi je préfère envoyer mon chèque à la petite association du coin que je connais, etc. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que l'un n'empêche pas l'autre? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
Alors moi, ma réponse est, à chacun de vos donateurs, c'est Si vous avez une cause, si vous avez une association que vous connaissez, qui fait du bon travail, qui est près de chez vous, qui est loin de chez vous, et que vous voulez aider, aidez-la.
Est-ce qu'on peut demander, dans le cadre du fonds, je vais même aller un peu plus loin, on va creuser ce point-là, si je fais un don au fonds social, est-ce que je peux demander que la moitié au moins de mon don soit affecté sur une association en particulier, et le reste, potentiellement, puisse servir les autres? C'est quelque chose qui est possible dans le cadre du don?
Alors, dans le cadre de la campagne pour la Tzedaka, d'accord, donc l'appel national pour la Tzedaka, a un certain nombre de programmes identifiés que vous pouvez voir d'ailleurs en allant sur le site tzedaka.fr, et vous pouvez, le donateur peut demander le fléchage de son don à un projet ou une association particulière. Vu que le programme pour la Tzedaka fédère 90 associations sociales de la communauté, je ne crois pas qu'il y en ait une seule.
Ouais. On peut trouver la sienne.
On peut trouver la sienne. L'avantage, en fait, de la Tzedaka, moi, pour le donateur, pour moi, il est double. Le premier, c'est que le fonds social et en particulier le compte Tzedaka, c'est du béton. C'est-à-dire que chaque don est tracé, les comptes sont certifiés.
Oui, c'est ça, vous avez un commissaire aux comptes.
On a la transparence. Comme... Ouais. Et en fait, le donateur sait exactement où va son argent. Et on ne fait pas qu'un don, c'est-à-dire que l'argent va aller au programme, mais vous allez avoir également les professionnels du fonds social qui vont accompagner les associations dans la réalisation de ce programme. Donc, on est quand même dans un exercice de traçabilité, de fiabilité. Ça, c'est le premier élément qui fait qu'on peut donner à la Tzedaka. Le deuxième élément, c'est que on participe à une cause collective. C'est-à-dire que la Tzedaka, c'est la campagne, c'est la collecte qui, au sein de la communauté, rassemble le plus grand nombre de donateurs.
Ça permet de n'oublier personne, y compris ces petites associations qui font un travail de terrain et qu'on connaît moins ou qu'on connaît peu, et qui, sans elles, et si on parlait de Madame A tout à l'heure, hein, j'aime bien cet exemple, en fait, permettent justement ces accompagnements. Strasbourg est une ville clé de l'appel national de la Tzedaka. Je salue d'ailleurs au passage Jacques S et Laurent Gradevol, qui sont les deux ambassadeurs de cet appel au niveau local, et puis les éminents membres du Fonds social ici dans la région. C'est quoi la part de la contribution alsacienne à l'appel de la Tzedaka? Vous le savez, c'est important, on n'est pas obligé de donner des chiffres, mais...
Alors, je ne peux pas vous donner, mais je veux bien revenir à la fin de la campagne pour vous donner ce chiffre de ce que sera de ce qu'aura été la contribution alsacienne à l'appel national pour la Tzedaka.
Et on vous invitera à nouveau pour en parler, oui, tout à fait.
Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, en observateur et en acteur et en militant du social au sein de la communauté depuis près de 20 ans, je sais quel est le degré de solidarité et d'engagement qui existe dans le judaïsme strasbourgeois. Je crois que Strasbourg est un modèle d'engagement, de solidarité et de construction et d'innovation. Moi, ce que j'admire et que je respecte beaucoup dans la manière dont le judaïsme strasbourgeois se structure et s'organise depuis des décennies, c'est qu'il est à la fois très ouvert sur la cité, il sait construire les outils de l'action sociale moderne du XXIe siècle, et il sait aussi travailler de manière unitaire. Donc moi, je suis très heureux, en fait, de la contribution strasbourgeoise à la solidarité nationale. Je crois que c'est très important pour nos amis donateurs strasbourgeois, de se dire que l'émulation du modèle strasbourgeois appelle aussi à ce que leur générosité aille vers des communautés plus petites, peut-être moins structurées, et qui ont moins de capacité à l'autosuffisance et à se financer.
Moins organisé, moins structuré, voilà. Tout à fait. Donc, Richard Audier nous a dit...
Une responsabilité, je dirais, dans la péréquation communautaire nationale.
D'accord. Alors, je voulais juste revenir sur un point qui est important, parce que les grands donateurs, les 26 parrains de l'appel national de la Tzedaka sont non seulement des parrains, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de soutenir la campagne, de l'accompagner, vous l'avez dit, sur le terrain, mais je précise aussi, parce que c'est important, ils sont aussi donateurs de cette campagne. Je crois que c'est important de le dire, parce que on dit, l'expression dit « faites ce que je dis parce que je fais », en l'occurrence là ils disent, ils soutiennent et ils font, donc ça c'est important à préciser. Richard Audier nous a dit il y a trois semaines que cette année était une année particulière. Harry Flack, vous l'avez dit vous aussi et on le comprend tous, hein, je pense que chacun devant son écran a compris que socialement c'était une année épouvantable pour la France, ça risque de durer encore un certain temps, et Richard Audier nous disait qu'il fallait cette année que ça fasse mal, que ça fasse même très mal, et il inviter en fait les donateurs habituels à donner 3 fois, 5 fois plus que d'habitude. Vous confirmez cette tendance? Il faut vraiment cette année comprendre que on n'est pas dans un soutien récurrent avec son chèque qu'on fait chaque année. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans une période particulière qui nécessite une aide particulière.
Il faut sauver l'infra. Il faut sauver. En fait, on a des existences. Je peux parler de vie parce que on a des existences à sauver cette année. On a des gens qui vont se prendre le mur, certains qui l'ont déjà pris, des entrepreneurs qui vont perdre leur entreprise, des salariés qui vont perdre leur emploi, des personnes âgées isolées qui vont se retrouver seules parce qu'ils auront perdu leur conjoint ou leur conjointe, des enfants qui vont être déscolarisés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. On va avoir on a un tsunami social devant nous qui approche. Et c'est le moment où chacun s'inquiète, en fait, pour sa situation. C'est paradoxal. Les années précédentes, c'était simple. D'un côté, il y avait les donateurs, qui allaient bien, et de l'autre, il y avait les bénéficiaires. Et les donateurs tendaient la main aux bénéficiaires. Cette année, chacun s'inquiète. Chacun a une raison de s'inquiéter. Et pourtant, cette année, il faut être capable de regarder celui qui va plus mal que moi et se dire que même si je m'inquiète, même si mon affaire est moins profitable, mon magasin a été fermé pendant plusieurs semaines, où j'ai été mis en chômage partiel, eh bien, il y a une personne, Madame A, une autre, qui va plus mal que moi et qui a besoin de moi. Et cet appel, moi, je sens qu'il est entendu. Parce que depuis le début de la campagne, j'ai tous les jours le nombre de donateurs et le nombre de dons qui arrivent en ligne, eh bien, nous avons à ce jour plus de donateurs que l'année dernière.
Donc le nombre D'accord. de donateurs... Et plus de donateurs en nombre et en collecte, est-ce qu'on a renforcé nombre,
une collecte plus importante que l'année dernière.
Très bien.
Mais un don moyen en baisse. Et c'est normal, okay. Parce que c'est dur. C'est dur pour les gens. Mais moi, je sens que cet appel est entendu. Et donc, je crois que vraiment, enfin, si vous êtes devant votre... Il n'y a plus de poste de radio maintenant, mais si vous êtes devant votre écran ou dans votre téléphone à écouter cette émission, n'attendez pas. Allez sur tzedaka.fr, faites votre don et inscrivez-vous dans cette grande chaîne de solidarité. Il faut absolument qu'on tienne, en fait. C'est-à-dire que la question qui nous est posée collectivement, c'est est-ce qu'on va tenir ou est-ce qu'on va laisser des gens au bord de la route? Est-ce que les associations vont devoir choisir? On parle, dans ces temps de Covid, des hôpitaux et du personnel hospitalier qui se refusent de choisir entre les patients. Eh bien, moi, je me refuse que les associations sociales choisissent entre les situations de précarité. Je me refuse à ce que nos assistantes sociales ne soient pas assez nombreuses pour aller visiter chacune des personnes âgées isolées. Je me refuse à ce qu'il y ait un enfant qui ne mange pas le midi. Je me refuse à ce qu'il y ait un adulte handicapé qui ne puisse pas se voir offrir une place dans un centre d'aide par le travail. C'est cela que je refuse, et c'est la raison de mon engagement, et celle de l'ensemble des bénévoles, des militants et de nos donateurs.
Arié Flak, merci, on arrive au terme de cette émission. Elle aurait pu encore durer un temps, je crois, infini. On va reprendre un slogan bien connu, hein, qui est celui des Restos du Cœur. On compte sur vous. Je pense que le Fonds social et les dizaines d'associations qu'il supporte comptent aussi sur vous. On vous souhaite bonne route pour la suite, Arié Flak, et pour la collecte. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent donner au travers du lien don.fsju.org, qui est assez bien fait d'ailleurs, hein, je tiens à le dire puisque j'ai moi-même été porté ma contribution, et c'est très simple d'utilisation. On peut donner de la façon que l'on souhaite et en payant de la façon que l'on souhaite. On souhaite bonne route à la campagne de la Tzedaka. Moi, j'appelle vraiment les auditeurs en Alsace à être généreux cette année, beaucoup plus que d'habitude, à soutenir cette campagne. Arié Flak l'a dit tout à l'heure, la région Est est une région de forte contribution, hein. Il y a un énorme travail qui est fait par Jacques Hess et Laurent Gradvol ici en local, et c'est pas nouveau, enfin, ça ne date pas du Covid-19, hein. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. Il faut que ça continue, il faut qu'on reste et qu'on continue à être exemplaire en Alsace, parce que c'est une région de générosité. Arié Flak, merci et à très bientôt. On vous réinvitera pour faire un bilan de cette campagne d'ici quelques semaines, et on aura le plaisir à nouveau d'échanger avec vous.
Merci beaucoup, Patrick Cohen, pour votre invitation.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Arié Flak, le président de l'appel national de la Tzedaka, au micro de Patrick Cohen. Vous l'avez compris, c'est important, il faut donner.